Chapitre 9. Le pardon, fondement d'une vraie amitié. En voyant les difficultés que j'éprouve parfois à pardonner, je me suis souvent demandé si je n'étais pas une personne particulièrement dure. Mais, en lisant le livre de Karen Maines, La clé de l'amour, Proverbe 26, verset 17, j'ai découvert que pour tous, le pardon est coûteux, douloureux, demandant un effort persévérant, car pardonner, c'est supporter la souffrance due aux mauvaises actions des autres. Si vous avez de la peine à pardonner, sachez que c'est normal. Il faut se battre pour pardonner. C'est souvent déchirant et pénible. Ce qui nous manque le plus pour réussir à pardonner, c'est le désir de le faire. Soyons honnêtes, la plupart du temps, nous ne voulons pas pardonner, car ce que nous avons subi nous semble trop injuste. Pourquoi devrions-nous pardonner? Le non-pardon nous détruit spirituellement, moralement et même physiquement. La rancune et la haine ne sont pas neutres, elles nous font du mal. Nous ne sommes pas créés pour vivre dans la rancœur. Si vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Éphésiens 4, versets 26 et 27. Quelqu'un a dit, « Celui que je hais me poursuit jusque dans mon lit. » Que voulait-il dire? Pendant la nuit, nous ressassons les torts subis. Nous donnons à celui qui nous a blessés le pouvoir de nous empêcher de dormir. Peut-être cette personne est-elle aujourd'hui éloignée ou même décédée? Pourtant, l'amertume continue à nous ronger jour et nuit. Notre vitalité est comme éteinte, empoisonnée par la souffrance due à l'injustice que nous n'arrivons pas à digérer. Nous nous retrouvons privés de tout dynamisme, amorphes, sans désir d'entreprendre quoi que ce soit. La confiance que nous avions dans notre prochain a été sciée à la base. Le refus de pardonner est l'un des grands obstacles au bonheur. Le non-pardon peut être à l'origine de troubles physiques, perte d'appétit, maux d'estomac, arthrose ou migraine. Bien sûr, ces maladies ne sont pas obligatoirement le fruit du non-pardon, mais s'interroger nous aide à discerner si nous sommes ou non victimes d'une racine d'amertume. Notre santé spirituelle en est toujours altérée. La rancœur paralyse la vie de prière. Lorsque nous sommes fâchés, inconsciemment, nous en voulons aussi à Dieu. Comment a-t-il pu permettre qu'une telle injustice nous arrive? Notre foi est comme bloquée, incapable de saisir les promesses de Dieu, car nous nous mettons à douter de son amour. Toute notre vie spirituelle est atteinte. Louange, confiance en Dieu, désir de témoigner. Nos forces pour résister aux tentations sont amoindries, découragées, écœurées. Nous aurons tendance à retourner aux vieilles idoles ou aux péchés abandonnés depuis longtemps. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, insiste sur la nécessité du pardon. Pardonnez et vous serez vous-même pardonné. Luc 6, verset 37. Le pardon est entièrement gratuit. Lorsque Dieu m'a pardonné, je ne le méritais pas. S'il n'avait pas payé la facture à ma place, j'aurais eu droit à une place bien méritée en enfer. Littéralement, il m'a pardonné. Il m'a donné par-delà ce que je méritais et il m'appelle à suivre son exemple. Pardonner ne veut pas dire que l'on soit d'accord avec ce qui a été dit ou fait. Pardonner ne veut pas dire bafouer la justice. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Pardonner signifie que nous acceptons de nous en remettre totalement à la justice de Dieu. « À moi la vengeance, dit le Seigneur, car la colère de l'homme ou de la femme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Jacques 1, verset 20. Parfois, on redoute de pardonner par crainte de futures blessures. Mais si je pardonne à quelqu'un qui ne se repent pas, cela ne m'oblige nullement à me remettre sous son joug. Si une jeune fille a été violée par l'oncle chez qui elle vivait, lui pardonner n'implique en aucun cas l'obligation de retourner vivre sous son toit. Ce pardon permettra à Dieu de la guérir, elle, et libérera la puissance divine en vue du salut de cet homme. On peut pardonner et pourtant ne pas vivre la réconciliation. Celle-ci dépend aussi du bon vouloir de l'autre. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Romains 12, verset 18. On se coupe de la grâce en la refusant à autrui. Dans le Notre Père, Jésus nous enseigne à développer harmonieusement nos relations avec Dieu et avec nos semblables. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, verset 12. On pourrait traduire cette prière en disant « Père, regarde comment je pardonne à ma belle-mère, à mon mari, à ma rivale, à mes enfants, et, s'il te plaît, agis de même à mon égard. » Jésus ajoute un commentaire. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu 6, versets 14 et 15. Il ne s'agit pas d'un bon conseil, mais d'un principe assorti de conséquences. Si je refuse de pardonner, je n'aurai plus droit à l'erreur, je devrais être parfaite. C'est un fardeau bien lourd à porter. Un général a un jour déclaré à un pasteur « Sachez, monsieur, que je ne pardonne jamais. » Ce à quoi l'homme de Dieu a répondu « Eh bien, général, j'espère pour vous que vous ne fautez jamais. » Jésus nous invite à choisir le pardon comme style de vie. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Luc 6, versets 36 et 37. Le pardon, source de guérison. Comme le dit si bien un proverbe, un frère offensé est pire qu'une ville forte, et les querelles sont comme les verrous d'un donjon. Proverbe 18, verset 19. Dans le couple, les époux ressemblent parfois à des banquiers qui emmagasinent dans la banque de leur mémoire toutes les injustices et les affronts. Ils restent là, intacts et bien vivaces. Dans ce domaine, il n'y a pas de prescription. Une histoire vieille de 10 ans peut rester aussi cuisante que celle de la semaine dernière. Pourquoi? Parce que la blessure n'a pas été guérie. Sans la désinfection du pardon qui permet la guérison, elle continue à faire mal. En voici un exemple. Une femme atteinte de paralysie demanda à son pasteur de prier pour sa guérison. Sa situation était difficile, car elle avait plusieurs enfants à charge. Son mari venait de la quitter pour une autre femme. Avant de prier, le pasteur lui demanda si elle avait pardonné à son mari. « Ah non, c'est lui qui m'a abandonnée. »« Oui, mais c'est vous qui souffrez. Pardonnez-lui pour que rien ne fasse obstacle à vos prières. Cela vous libérera de l'amertume qui peut bloquer votre guérison. » Elle fondit en larmes. « Non, je ne peux pas. Tout est de sa faute. S'il ne m'avait pas abandonnée, je n'en serais pas là. » Elle repartit, sûre de son bon droit, mais enfermée dans sa haine. Plus tard, elle médita sur la vie de Jésus. Sur la croix, il s'est écrié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il a pardonné à ceux qui ne demandaient pas pardon, à ceux qui l'insultaient et crachaient sur lui. Elle décida alors de pardonner à son mari, allant jusqu'à jeûner pour lui. Peu de temps après, saisi de terribles remords, il revint à la maison et lui demanda pardon. Ensemble, ils allèrent trouver le pasteur qui conduisit le mari à Christ. Quant à elle, persévérant dans la prière, elle est aujourd'hui totalement guérie de sa paralysie. Le pardon, source de lumière. J'ai reçu une image qui m'a aidé à mieux comprendre la puissance du pardon. Lorsqu'on en veut à quelqu'un, c'est comme si on faisait écran entre Dieu et le coupable. En quelque sorte, la personne incriminée se trouve dans l'ombre du plaignant. Celui qui a été malmené se tient devant Dieu avec sa liste de griefs. Lorsqu'il pardonne, il se retire et ne fait plus écran entre Dieu et le coupable. Il permet alors à la lumière du Saint-Esprit de le convaincre de justice, de péché et de jugement. Le pasteur d'une église florissante avait la fâcheuse habitude de piquer de terribles colères. Cela avait un effet très négatif sur sa communauté qui perdit beaucoup de membres. Il pensait que ce n'était pas de sa faute. Après tout, son père et son grand-père n'avaient-ils pas le même caractère? Mais quand la moitié des anciens le quitta, il réalisa qu'il était temps de changer. Pourtant, ni ses prières, ni son jeûne ne purent le délivrer. Un jour, Dieu parla à sa femme à ce sujet. Bouleversée, elle lui demanda pardon pour l'amertume secrète qu'elle avait si longtemps entretenue à son égard à cause de ses colères. La repentance du mari et le pardon de l'épouse ont permis un réel déblocage spirituel. Il est maintenant capable de se maîtriser. Son couple, comme son église, connaissent un nouvel essor. Nos enfants et le pardon. Une jeune maman est atterrée en découvrant que son mari, pourtant assidu aux rencontres de l'église, la quitte pour sa secrétaire. Frappée par ce malheur, elle n'arrive pas à se confier à qui que ce soit. Elle a tellement honte de faire désormais partie des femmes trompées. Qu'a-t-elle fait pour mériter cela? En relisant les psaumes, elle décide de se confier en Dieu envers et contre tout. Pour nourrir sa foi bien défaillante, elle démarre son temps de recueillement par des chants d'adoration. 2 semaines s'écoulent. Elle se sent toujours aussi misérable. Puis un matin, la certitude d'être aimée de Dieu la submerge. C'est comme si une main la tirait de sa dépression. Elle réalise qu'elle doit pardonner à son mari. Ce n'est pas facile, mais elle choisit de le faire, demandant au Seigneur de mettre en elle son pardon. Elle reçut un nouvel amour pour son époux. Alors qu'il vient voir ses enfants, elle lui propose de reprendre leur vie commune. Il refuse, disant qu'il a maintenant une nouvelle vie. Cela brise son cœur. Pourquoi Dieu l'a-t-il rempli d'un tel amour s'il n'y a pas de suite? Pourtant, en y réfléchissant, elle réalise combien elle a changé. La paix a envahi son cœur. Plus d'insomnie où elle se torturait pour savoir où elle avait failli. Plus d'angoisse, plus de culpabilité. Elle peut croiser son mari en ville sans agoniser de souffrance. C'est un vrai miracle. Elle remercie le Seigneur de cette délivrance et lui demande s'il lui reste d'autres étapes à vivre. Alors s'impose à elle la pensée de ses beaux-parents. Elle leur en veut, car ils ont pris le parti de leur fils. Là encore, elle pardonne. Et ce n'est pas fini. Une préoccupation la saisit au sujet de ses enfants. Dieu la presse de les faire entrer à leur tour dans la maison du pardon. Elle leur explique que papa ne vit plus avec eux, car le diable a réussi à le tromper et à lui voler son cœur. Sont-ils d'accord de lui pardonner? La grande de 6 ans se met à pleurer et à prier. « Jésus, s'il te plaît, va dire à mon papa que je l'aime toujours. » Jamais cette maman n'aurait pu faire entrer ses enfants dans la maison du pardon si elle-même n'y était pas parvenue. Papa n'est pas revenu, mais les enfants vont grandir sans amertume et préparer leur futur foyer sur un solide fondement. L'important, on l'a compris, n'est pas de pouvoir pardonner, mais de le vouloir. Quand on réalise que l'on est le premier bénéficiaire du pardon, la démarche en est grandement facilitée. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner, mais j'aimerais le faire. S'il te plaît, aide-moi. Viens mettre ton pardon dans mon cœur. Le pardon jaillit non de nos sentiments, mais de notre volonté. C'est un choix. Il est source de libération, de salut, de guérison et d'une vie de prière victorieuse. Pour le vivre, il faut le vouloir et implorer l'aide de Dieu. Il nous conduira à prier pour nos ennemis, à les bénir et même à leur faire du bien. Les sentiments vont suivre nos choix. Lorsque nous sommes au volant de notre voiture, la décision de la destination nous appartient. Le moteur ne fait qu'entraîner le véhicule. De même, si nous voulons pardonner, la puissance de Dieu nous soutiendra dans la bonne direction. Dans le cas contraire, l'ennemi fera bouillir en nous toute l'amertume nécessaire pour nous plonger dans une haine de plus en plus profonde. Dans les deux cas, les sentiments suivront nos choix. Pourtant, après avoir pardonné, des bouffées de colère peuvent remonter à la surface et nous désorienter. Ai-je vraiment pardonné? Oui, vous l'avez clairement fait. Mais alors, d'où vient cette colère? Les sentiments d'amertume peuvent mettre du temps à s'éteindre. Le pardon est comme le désherbant qui attaque la mauvaise herbe à la racine. Celle-ci ne se dessèche pas instantanément. Restons fermes, reconfirmons notre pardon et ces sautes d'humeur tariront peu à peu. Le choix d'aimer est personnel. Nul ne peut le faire à notre place. C'est un bel engagement qui transforme notre vie, celle de nos enfants et bien sûr celle de notre mari. Pour le vivre pleinement et réussir notre mariage, laissons Dieu devenir le sage architecte de cette amitié complice et tendre, jour après jour.